Les pourparlers de Vienne doivent garantir les avantages économiques de l'Iran, dit le président du Parlement iranien. En France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen qualifiés pour le second tour de la présidentielle. Et en RDC, les rebelles du M23 abandonnent les localités conquises. C'était les principaux titres. En voici le journal. Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Ghalibaf, a déclaré dimanche 10 avril que les négociations nucléaires à Vienne devaient conduire à des avantages économiques garantis pour l'Iran, selon un communiqué publié sur le site Internet du Parlement. Les progrès nucléaires de l'Iran représentent un soutien solide pour les avantages économiques du peuple iranien et les négociations nucléaires devraient conduire à des avantages économiques garantis, durables et tangibles pour le peuple iranien, indique le communiqué. Citant M. Ghalibaf lors de la séance publique du Parlement. M. Ghalibaf a fait ses remarques pour commémorer la Journée nationale de la technologie nucléaire qui tombait samedi 9 avril. Selon lui, la localisation de l'industrie nucléaire a amélioré le pouvoir de négociation des diplomates iraniens durant les pourparlers de Vienne. Nous espérons maintenant que l'atout précieux que constituent les connaissances et la technologie nucléaire avancée, combinés à une bonne négociation, mèneront à un bon accord pour les avantages économiques du peuple iranien, a-t-il noté. Un jour plus tôt, le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que les progrès réalisés par le pays dans la science et la technologie nucléaire pacifique étaient irréversibles. Depuis avril 2021, 8 cycles de négociations ont eu lieu à Vienne entre l'Iran et les autres parties du plan d'action global conjoint, à savoir la Chine, la Russie, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, pour relancer l'accord. En mai 2018, le gouvernement américain sous l'ancien président Donald Trump a retiré Washington de ce plan et a réimposé unilatéralement des sanctions contre l'Iran. En réponse, Téhéran a progressivement abandonné une partie de ses engagements dans le cadre de l'accord à partir de mai 2019. L'Iran exige que les États-Unis garantissent de ne pas abandonner à nouveau l'accord et de lever les sanctions de manière vérifiable. Les parlementaires iraniens ont exigé dimanche que les États-Unis fournissent des garanties légales interdisant aux futurs gouvernements américains de renoncer à l'éventuel accord visant à sauver le plan d'action global conjoint. Les États-Unis doivent fournir à l'Iran les garanties légales nécessaires pour prouver qu'ils ne risquent pas de se retirer à nouveau l'accord nucléaire. Ces garanties doivent être approuvées sous une forme légalement contraignante par les plus hautes institutions décisionnelles des États-Unis, dont le Congrès, afin qu'il n'y ait à l'avenir aucun obstacle à la mise en œuvre de l'accord, indique un communiqué signé par 250 législateurs iraniens. Les États-Unis doivent également veiller à ce que les sanctions qui seront levées ne soient jamais remises en vigueur. L'Iran doit avoir le droit d'exporter son pétrole vers n'importe quel pays et dans n'importe quelle quantité et doit pouvoir percevoir les revenus liés à ses exportations de pétrole par le biais du système bancaire international, ajoute le communiqué des parlementaires iraniens. L'ambassadeur de Syrie à Téhéran, Shafir Dayoub, a évoqué avec une délégation iranienne composée des représentants de différents secteurs commercial, industriel et d'artisanat les moyens de renforcer et de développer la coopération économique, commerciale et d'investissement entre les deux pays. Dayoub a souligné l'importance d'établir des entreprises conjointes entre les deux côtés et de consolider le rôle du secteur privé de façon qui sert les intérêts des deux pays amis dans les domaines économiques et commerciaux, insistant sur l'importance de déployer les efforts pour renforcer les relations économiques et commerciales pour qu'elles atteignent le niveau des relations politiques et stratégiques bilatérales et d'organiser des expositions réciproques d'une manière qui contribue à faire connaissance des produits fabriqués dans chacun des deux pays. L'ambassadeur Dayoub a souligné la participation d'entreprises iraniennes et d'hommes d'affaires iraniens à la troisième conférence de la reconstruction de la Syrie intitulée « Perspectives et visions de l'investissement » qui se tiendra à Damas au mois de mai prochain. De son côté, la délégation iranienne a mis l'accent sur l'importance de la coopération avec la Syrie dans les différents domaines économiques, médicaux, industriels, technologiques et d'informatique, appelant à traiter toutes les questions techniques d'une manière qui contribue au renforcement des relations entre les deux pays. Pour le deuxième jour consécutif, les FTS ont empêché l'accès des denrées, de la farine et de carburant vers le centre-ville de Hasaka, ce qui a causé une pénurie et une hausse des prix des denrées, constituant ainsi une pression supplémentaire sur les citoyens en termes d'assurer les besoins de la vie quotidienne. Les FTS ont également fermé les rues environnantes et établi des points de contrôle mobiles. Ce n'est pas la première fois que la milice séparatiste assiège le centre-ville de Hasaka. L'an dernier, elle l'a assiégé pour quelques mois et privé les habitants d'apporter de la nourriture, de la farine et des médicaments. Ce siège ne s'est terminé que par un soulèvement populaire contre les pratiques de la milice qui a fait des martyrs civils et des blessés. Les habitants de la ville de Hasaka ont exprimé aux correspondants de Sana, l'agence de presse officielle syrienne, leur colère contre les pratiques criminelles des FTS qui cherchent toujours à les priver des produits alimentaires de première nécessité. De même, les FTS, soutenus par l'occupant américain, ont pris d'assaut l'une des sections du camp Al-Hol pour les réfugiés, qu'elle contrôle à l'est de la ville de Hasaka, et y enlevé un certain nombre de ses résidents, et ce au milieu de l'augmentation de l'insécurité qui règne à l'intérieur du camp. Des sources locales ont fait savoir aux correspondants de Sana que des groupes armés des FTS avaient encerclé la 6e section du camp qu'elle contrôle en coopération avec les forces d'occupation américaines et enlevé un certain nombre de ses résidents et les ont emmenés à une destination inconnue. Les sources ont souligné que le camp connaît un état de tension et d'insécurité, notamment des crimes d'assassinat commis dans ces sections où un corps d'un jeune homme tué a été trouvé dans la 4e section ces dernières heures. En France, le président sortant Emmanuel Macron et Marine Le Pen, candidates du Rassemblement national RN, sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle. Selon les résultats provisoires annoncés dimanche à 20h heure locale par les instituts de sondage à l'issue du scrutin du premier tour, Emmanuel Macron, candidat du mouvement La République En Marche, est arrivé en tête avec 28,3% des voix selon IFOP. Il est suivi de Marine Le Pen, crédité de 23,6% des voix selon IFOP. Les deux candidats se retrouvent pour la deuxième fois au second tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise, est arrivé en troisième position avec 20,5% des voix. Aucun des 9 candidats restants n'a franchi la barre des 10%. Éric Zemmour, extrême droite, occupe la 4e place avec 7,1% des voix. Le taux d'abstention pour ce premier tour est estimé autour de 26% par les instituts de sondage. Ce taux s'est élevé à 22,2% en 2017. Les deux candidats finalistes se sont exprimés dès l'annonce des résultats provisoires. M. Macron a appelé à fonder, au-delà des différences, un grand mouvement politique d'unité et d'action. Marine Le Pen a pour sa part appelé tous ceux qui n'ont pas voté Emmanuel Macron à rejoindre son parti RN. Le nom du futur président de la République française sera connu le dimanche 24 avril à l'issue du scrutin du second tour de l'élection présidentielle. Les rebelles du M23 qui ont pris le contrôle de plusieurs localités du territoire de route Chourou dans l'est de la République démocratique du Congo ont annoncé dimanche 10 avril le retrait de celle-ci tout en attendant du gouvernement congolais la tenue d'un dialogue. Le M23 exprime son intention de remettre au Comité international de la Croix-Rouge tous les éléments de l'armée nationale capturés sur la ligne de front en vue d'une prise en charge appropriée, ajoute-t-il, affirmant qu'il n'a jamais eu l'intention de faire la conquête des espaces pour les administrer. Plusieurs villages de l'est de la République démocratique du Congo sont passés sous contrôle des rebelles du mouvement du 23 mars M23 après des affrontements avec l'armée congolaise dans la région de Rutshuru. La ligne de front se situait samedi 9 avril à une dizaine de kilomètres du centre urbain de Rutshuru. Des combats étaient également signalés autour du barrage hydroélectrique de Matebe dans le parc de Virunga. Défaite en 2013, le M23, également appelé Armée révolutionnaire du Congo, dont les combattants s'étaient réfugiés en Ouganda et au Rwanda, a repris les activités militaires l'an dernier, reprochant à Kinshasa le non-respect de ses engagements de paix conclus en 2013, notamment la réintégration dans la vie civile pour certains combattants, l'intégration dans l'armée pour d'autres et l'amnistie pour les combattants. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Ce qui attend la liaison maritime Israël-Émirats. Les Émirats arabes unis et Israël ont récemment signé un protocole d'accord pour renforcer la coopération en matière de transport, en particulier dans le domaine du commerce maritime d'Exit, dans le cadre du partenariat stratégique qui a émergé de la signature des accords d'Abraham. Les deux parties prétendent que le renforcement des relations bilatérales contribuerait à établir la stabilité et la paix au Moyen-Orient, à stimuler la croissance économique, à renforcer l'innovation technologique et à établir des relations plus étroites entre les peuples de la région. Dès la signature des accords, d'ailleurs, la compagnie maritime israélienne ZIM s'est empressée d'initier des dessertes du port de DP World, Jebel Ali. India East Med Express de ZIM offrait des services depuis Israël et la Méditerranée orientale vers les Émirats, tandis que le service ZIM Israël-Inde commençait à accepter des marchandises de Jebel Ali à Haïfa. Et à en croire les Émirats, tous ces agissements dans le Golfe Persique iraient dans le sens des intérêts des peuples de la région. Ce genre de racontard est loin d'associer l'Iran et les peuples de la région, qui voient là surtout des tentatives d'infiltration israélienne à des fins de déstabilisation. Lors d'un contact téléphonique, le samedi 9 avril, le ministre iranien des Affaires étrangères a été bien clair. L'Iran ne tolérait pas Israël à sa porte. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, et son homologue émirati, le Cheikh Abdallah Ben Zayed Al Nahyan, ont discuté au téléphone de questions bilatérales, régionales et internationales, notamment la situation en Syrie, les développements dans les territoires occupés de la Palestine et les pourparlers de Vienne. Lors d'une conversation téléphonique du samedi 9 avril avec son homologue émirati, le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a dénoncé la présence du régime sioniste dans la région, avant de souligner que la présence d'Israël représente une menace pour tous les pays de la région. En allusion à la présence de l'entité sioniste dans la région, le chef de la diplomatie iranienne s'est exprimé en ces termes. Les sionistes ont été et sont à l'origine de l'insécurité dans la région. Il a décrit la présence du régime sioniste dans la région comme une menace pour tous les pays de la région. Le ministre iranien des Affaires étrangères a déclaré. Des efforts doivent être conjugués pour empêcher les éléments qui créent la crise de prendre pied dans la région. Pour sa part, Al-Nahyan s'est contenté de promettre qu'Abu Dhabi n'autoriserait aucune partie à utiliser le sol émirati pour des actes de sabotage ou de provocation contre les États voisins. Il y a évidemment l'option dite « Mercer Street » ou l'attaque au drone contre tout bâtiment suspect israélien qui s'aventurait dans les eaux de la région. Mais le progrès iranien étant fulgurant en la matière, d'autres choix s'offrent de plus en plus. Lesquels ? Fin 2021, le CGRI, Corps des gardiens de la révolution islamique, a dévoilé une classe de submersibles subsurface, en quoi certains analystes ont vu une forme de torpille. Était-ce une torpille ? On sait que l'Iran est le concepteur de divers modèles de torpilles, dont quelques-uns font partie des plus mortels au monde, mais l'engin récemment dévoilé ne semble pas en être une. C'est un drone sous-marin, sans pilote, auquel le CGRI a donné le nom de Shahpat. Le Shahpat iranien est de courte portée, adapté parfaitement aux eaux peu profondes du Golfe Persique. Quelle est la mission de ce petit drone sans pilote sous-marin ? C'est une plateforme, évidemment, pour pulvériser des cibles sur surface et de surface, ce qui devrait bien inquiéter une entité en quête de nicher quelque part à Bahreïn ou aux Émirats arabes unis, près des côtes iraniennes. Mais Israël, totalement dépourvu d'une marine qui vaille ses alliés, ne demanderait pas des missions d'attaque Si l'entité a osé s'infiltrer dans le golfe Persique, c'est à des fins d'espionnage anti-Iran, ce qu'elle ne cache même pas. Or, le Shahpad iranien est aussi spécialisé dans des missions cartographiques et fuies sous-marines ou encore transport de dispositifs sonar. Mais il y a plus. Ces drones sous-marins semblent avoir les mêmes capacités que les drones aéronavals iraniens, à savoir synchroniser leur action entre eux. Le Shahpad iranien s'essaye soit à l'aide des drones, soit par le biais des câbles sous-marins, soit via l'intelligence artificielle. Mais une chose est sûre, ni navire de guerre, ni sous-marin ennemi ne pourrait tenir tête à un essaim de Shahpad.